105 FM. FM, un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette émission consacrée aux droits humains. Animer cette émission, Philippe et Sophie, bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver.
Et bienvenue à Pierre pour l'aide technique. Alors, dans cette émission, on va recevoir Annick et aussi Daniel du mouvement de la PEC 49 et nous passerons en revue les actualités. Mais tout d'abord, Philippe, dans ton éditorial, tu voulais nous expliquer comment des milliers de manifestants pacifiques ont été arbitrairement arrêtés et poursuivis dans notre beau pays.
Amnesty International a enquêté pendant 18 mois sur la réponse des autorités aux mouvements sociaux, recueilli et recoupé le témoignage d'une centaine de manifestants arrêtés et poursuivis et rencontré les autorités. Le constat est inquiétant. Depuis fin 2018, en France, la répression des manifestations a été d'une ampleur inédite. Manifester pacifiquement expose au risque de violences policières, mais aussi à celui de finir en garde à vue. En effet, les autorités ont instrumentalisé des lois contraires au droit international pour verbaliser, arrêter arbitrairement et poursuivre en justice des gens qui n'avaient commis aucune violence. Parmi eux, des manifestants, mais aussi des journalistes ou observateurs des droits humains ont notamment été pris pour cible. C'est ce qui apparaît dans le rapport d'Amnesty intitulé « Arrêtés pour avoir manifesté », publié le 29 septembre.
Et que dit le droit international sur le droit de manifester ?
Le droit de manifester, ou droit à la liberté de réunion pacifique, est un droit fondamental garanti par l'article 20 de la Convention universelle des droits de l'homme. L'État doit le faciliter et le protéger. Il ne peut être limité que sous certaines conditions. La restriction doit être prévue par la loi et avoir un objectif légitime : protéger l'ordre ou la moralité publique, ou protéger les droits et libertés d'autres personnes. Elle doit être, enfin, strictement nécessaire et proportionnée.
Et les gilets jaunes, eux, ont été régulièrement empêchés de manifester.
Sans parler des violences policières, entre novembre 2018 et juillet 2019, 11 203 d'entre eux ont été placés en garde à vue. Plus de la moitié ont certes été libérés sans poursuite, mais d'autres ont été poursuivis et parfois condamnés pour des activités qui ne devraient pas constituer des infractions pénales. Le délit d'outrage, notamment, revient très souvent. Il est défini de manière vague comme, je cite, « tout écrit, toute image ou toute parole qui porte atteinte à la dignité ou au respect dû à une fonction publique ». Et il est passible de peines allant jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende. En 2019, 20 280 personnes ont ainsi été reconnues coupables d'outrage à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique, y compris dans des contextes de manifestation et dans certains cas pour de simples slogans. Des centaines ont aussi été reconnues coupables de participation à un groupement en vue de la préparation de violences. Ainsi, certains manifestants ont été arrêtés et poursuivis simplement pour avoir porté des lunettes de natation ou des masques pour se protéger du gaz lacrymogène et des tirs de LBD.
Les autorités ont aussi profité de la crise du Covid pour restreindre encore un peu plus le droit de manifester de façon disproportionnée.
Les interdictions générales des manifestations peuvent rarement être justifiées, en particulier lorsque d'autres mesures de confinement ont été assouplies et que les regroupements sont autorisés. En France, par exemple, le gouvernement a maintenu une interdiction des manifestations réunissant plus de 10 personnes, tout en autorisant des regroupements plus importants dans les transports et les lieux ouverts au public. L'intention du gouvernement était à l'évidence de faire taire les manifestants et non de protéger la santé publique.
Et ces restrictions post-confinement s'inscrivent dans la continuité d'une situation inquiétante.
Les arrestations et les poursuites à répétition ont eu un effet négatif sur le droit à la liberté de réunion pacifique en France. Un grand nombre des personnes interrogées disent participer moins souvent à des manifestations ou éviter désormais les grands rassemblements. Utiliser la loi de manière abusive contre les personnes qui prennent part à des manifestations n'est pas aussi visible que les violences policières, mais c'est une autre forme de violence avec des effets tout aussi dévastateurs pour les personnes et le droit de manifester. Les autorités doivent cesser de transformer les manifestants en délinquants. manifestants pas criminels, signons la pétition en ligne sur amnesty.fr exigeant le respect du droit de manifester.
Merci Philippe. Allez, vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G101.5 FM, mais nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Annick et Daniel du Mouvement de la Paix. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Bonjour Valérie.
Bonjour Annick et Daniel.
Alors rapprochez-vous bien du micro. Voilà.
Est-ce que vous pourriez d'abord, en préambule, nous parler des origines de votre association, s'il vous
plaît ? Oui, bien sûr. En 2018, on a fêté le 70e anniversaire du Mouvement de la Paix. Et ce mouvement a été créé par un groupe de résistants, donc en 1948. Il s'appelait les Combattants de la Liberté. Mmh. Et ce mouvement avait pour but de rassembler tous ceux, toutes celles qui estimaient que la paix ne se construit pas à travers des logiques de puissance qui alimentent la course aux armements, mais à travers la réalisation des droits humains dans le respect des buts et des principes contenus dans la Charte des Nations Unies. Alors aujourd'hui, au-delà de la lutte contre la bombe atomique, le mouvement de la paix a accompagné les peuples dans leur lutte contre le colonialisme, pour leur autodétermination, et contribué à gagner des traités interdisant toutes les armes de destruction massive. Aujourd'hui, on a 4 objectifs pour ouvrir nos priorités. C'est obtenir la signature et la ratification de la France, donc de ce traité d'interdiction des armes nucléaires, et le gel immédiat des dépenses prévues pour moderniser cette arme. En deuxième, c'est obtenir une paix juste et durable au Proche-Orient et au Moyen-Orient, incluant la reconnaissance de l'État de Palestine. En troisième, c'est travailler la construction d'une sécurité commune pour l'ensemble de l'Europe, basée sur des coopérations économiques et culturelles équitables, incluant de nouvelles relations, notamment avec l'Afrique, et non sur des logiques de militarisation. Et pour finir, nous voulons développer partout en France des activités d'éducation populaire en faveur de la culture de la paix et de la non-violence.
D'accord. Et dans ces cas-là, vous faites pression auprès de quel mouvement ? Enfin, des États, de tous les États, de l'ONU, de la France ?
Le traité, on va pouvoir parler par exemple du traité d'interdiction des armes nucléaires qui a été voté en 2017, au mois de juillet.
Le 7 juillet 2017, 122 pays lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, il y en a deux par an qui durent plus de 3 semaines, à l'initiative de tout mouvement de la paix internationale, ça s'appelait ICAN, dans son sigle anglais des associations des ONG, et qui a été menée, cette campagne avait été menée pour dire, maintenant c'est terminé le nucléaire et on interdit les armes nucléaires. Avant on avait interdit les armes chimiques, les armes biologiques, les armes antipersonnelles, les armes à sous-munitions, on est dans la logique. Elle est forcément très destructrice, cette arme-là. Et 122 pays sur les 193 ont voté cette interdiction. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont ratifié, parce que après, il faut que les pays aillent devant leur parlement et décident de ratifier. Donc, c'est assez long. Oui. Aujourd'hui, on a
46 pays sur 50.
Et quand il y en aura 50, quand il y en aura 50, la mise en application de ce traité interviendra tout de suite avec le 50e pays qui aura ratifié. Donc il en reste 4.
C'est tout proche.
Donc nous, on déploie toute notre énergie. Et l'an dernier, lorsqu'on a fait cette manifestation du 21 septembre, c'est la Journée mondiale de la paix décrétée par l'ONU, on avait rassemblé avec nous des écologistes, parce que c'était une une action pour le climat et pour la paix. Mmh. Et on avait avec nous les gilets jaunes qui étaient à côté au Journal du Mail, puis on avait ceux qui se battaient contre l'avarium. Et on était 1100 personnes derrière les banderoles, ratification par la France de ce traité d'interdiction des armes nucléaires.
Donc la France n'a pas encore ratifié.
Mais non seulement elle n'a pas ratifié, mais elle s'est battue contre. Ah oui. Et contre de plusieurs façons, en faisant du lobbying auprès des gouvernements africains, en disant, si vous ratifiez ce traité, les subventions, vous pourrez aller les demander ailleurs. Notre ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, a bien su travailler ce sens-là. Voilà un petit peu comment... je pourrais même dire une autre façon de voir les choses. Ce traité a été adopté à l'ONU le 7 juillet 2017. Le 23 janvier 2018, soit 6 mois après, le président de la République a fait le vœu aux armées et il a dit à ses généraux que lui avait décidé de renouveler le parc des missiles et des sous-marins nucléaires sans qu'il ait eu à présenter ou à dire cette information à nos représentants, les sénateurs ou les députés. C'est quand même un peu fort.
Il y a un manque de transparence, effectivement, et on le voit aussi à travers la politique d'armement, n'est-ce pas ?
Complètement. Et surtout caché, parce que quand on voit les clients de la France, ce ne sont pas des démocraties.
Oui, et justement, la France est impliquée indirectement à travers ses ventes d'armes dans quel conflit, par exemple, actuellement ?
Il y a la Syrie,
on parle du Yémen aussi.
Il y a le Yémen, il y a eu l'Afghanistan, il y a le Mali, il y a aujourd'hui aussi ce qui se passe entre l'Arménie
l'Azerbaïdjan.
L'Azerbaïdjan, au travers de cette province qui est enclavée. Oui. Et la France a vendu des armes aux deux.
Aux deux.
C'est le troisième exportateur mondial. Donc le commerce des armes, c'est quand même pas un commerce comme un autre. Et on voit que c'est toujours les populations en plus qui trinquent dans ces conflits. Et là, que ce soit en Méditerranée ou au Moyen-Orient, la menace des armes vendues par la France. N'est pas acceptable. On doit s'indigner.
Et ce qui est choquant, c'est effectivement que la politique d'armement, c'est la chasse gardée du président. C'est ça aussi.
Complètement.
Voilà. Donc il n'y a pas du tout de transparence, il n'y a pas un débat démocratique devant les instances habituelles.
Je crois qu'on peut insister, on peut insister là-dessus. Regardez par exemple comment ça se passe. L'armée de l'air a changé de nom. Elle est devenue, vous pourriez vous en douter, mais non, elle est devenue l'armée de l'air et de l'espace. De l'espace, ça veut dire qu'on a changé la dimension et que sans rien dire, qu'en changeant de nom, on a changé tout sans consulter les députés, les sénateurs. Ouais.
Et je crois que vous développez aussi la culture de la paix à travers une mallette que vous avez à disposition, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Nous sommes très attachés aux objectifs de développement durable donc de l'ONU. Et on essaye par tous les moyens de cultiver la paix. Personne n'en parle. Donc on a fabriqué une malle avec des livres, des jeux, pour que les enfants du primaire entendent parler de la paix et de la non-violence. Et cette malle circule dans les centres de loisirs, dans les écoles primaires, pour pouvoir le plus possible parler de la paix et de la non-violence.
D'accord, merci.
Et s'il y a des bénévoles qui veulent vous rejoindre ou des personnes militantes, comment peut-on vous contacter ou...
Alors, on peut nous contacter, on a un local à La Roseraie, à l'espace Frédéric Mistral, donc 4 Allée des Baladins à Angers, ou par courriel, donc tout attaché en minuscule, en un seul mot, Mouvement de la Paix Angers, sfr.fr.
D'accord.
D'accord.
Et il y a un site internet aussi, non ?
Alors, il y a un site internet national. Donc, www.mvtpaix en minuscule. Et vous allez retrouver toute l'actualité, l'agenda des comités en région, les pétitions en ligne et les dossiers.
En tout cas, merci beaucoup Annick et Daniel, d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
De nous avoir invités.
Merci, on se retrouve après une pause musicale.
É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes ah. Sadly, she smiles, but she doesn't see.
C'était beau, nous venons d'écouter d'écouter The Girl from Ipanema de Stan Getz avec Astrud Gilberto. Vous êtes bien sur Droit Devant, sur Radio G 101.5 FM. Cette chanson, elle date de 1963, mais ça fait toujours du bien.
Oui,
d'autant
bien.
Que là, c'est le moment des actualités. Et on va commencer avec la tempête qui a détruit une grande partie de la vallée de la Roya. Nous connaissons à travers Cédric Héroux la solidarité de cette petite vallée entre France et Italie avec les exilés. Eh bien, aujourd'hui, c'est à nous d'être solidaires. On peut faire un don à lesamis.e.s de la Roya via Hello Asso. Allez Philippe, parlons de la police qui s'acharne sur le plus ancien assigné à résidence de France.
Kamel Daoudi a été arrêté le vendredi 25 septembre à 21h30 alors qu'il est des